RCF. Fin avril 2022, de jeunes diplômés d'AgroParisTech appelaient leurs amis à bifurquer pour l'environnement et à quitter des emplois destructeurs. Noémie Calais, vous n'avez pas attendu ce discours pour le faire. Vous qui êtes diplômée de sciences politiques, Paris, qui avez travaillé à Hong Kong, à Londres, vous êtes depuis 2018 éleveuse de cochons noirs dans le Gers. Dans le livre que vous venez de publier avec Clément Osé aux éditions Tana, un livre intitulé « Plutôt nourrir », vous parlez avec beaucoup de transparence des joies et des difficultés de votre vie d'éleveuse, de cette reconversion, mais vous lancez aussi un cri pour dénoncer les pressions du système agro-industriel sur les paysans. Un livre passionnant qui m'a donné envie de vous rencontrer. Alors malheureusement, pas sur vos terres dans le Gers, mais ici à Paris, vous êtes venu pour quelques jours. Qu'est-ce que vous ressentez, Noémie Calais, en venant à Paris, dans cette immense ville, loin des paysages bucoliques du Gers et de vos chers cochons noirs?
Lorsque j'arrive à Paris, j'ai des tas de souvenirs qui m'assaillent. Ça a été ma vie pendant 5 ans, lorsque j'étais étudiante à Sciences Po, juste à côté du lieu qui nous accueille aujourd'hui. Et j'aime revenir en ville, j'aime le bourdonnement des gens, le bruit de la rame du métro.
Gros contraste quand même avec ce que vous
contraste.
Vivez dans le Gers.
Ah oui, gros contraste avec le calme apparent de la campagne, calme qui n'est parfois qu'en surface, parce que quand on se plonge dans la fourmilière et la ruche d'une ferme, on se rend compte que ça vibre de tous les côtés et qu'il y a énormément d'animation, d'excitation. Mais effectivement, d'arriver à Paris et de se retrouver dans cette excitation très humaine, très matérielle, des bruits beaucoup plus métalliques, des bruits de ville, du bitume, Ça me fait du bien. J'aime bien pouvoir couper de la ferme, de la boue et de ma terre pour pouvoir me remettre un petit peu dans la ville, la joie des cafés et la beauté des visages des gens qui m'entourent.
Alors je me suis dit, mais comment Noémie va faire pour venir à Paris alors qu'elle a tous ses cochons à nourrir tous les jours? Vous avez pu vous faire remplacer finalement?
Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Une amie a commencé à venir travailler avec moi de temps à autre pour apprendre à s'occuper des cochons. Elle a envie de découvrir l'élevage au fil des saisons pour se tester pendant 1 an avant de devenir agricultrice elle-même, peut-être si le cœur lui en dit après tout cela. Et je lui ai laissé les clés de ma ferme en toute confiance et elle s'occupe des animaux. Il y a une mise bas qui doit arriver demain ou après-demain, mais j'ai entièrement confiance, elle sait gérer. Elle
a fait des mises bas avec moi. C'est nouveau pour vous, parce qu'on le voit bien dans le livre.
Absolument.
Une des grandes difficultés que vous avez rencontrées, mais que rencontrent tous les éleveurs, c'est de se faire remplacer pour
absolument,
pouvoir partir.
Absolument, absolument. L'élevage, c'est tous les jours, jours fériés, dimanche inclus, jour de fatigue inclus, Noël, Nouvel An, il est très compliqué de se faire remplacer, surtout sur ces périodes-là où personne n'a envie de travailler. Clairement, les week-ends et les jours fériés, personne ne veut s'y coller. Donc c'est généralement à l'éleveur de garder ses bêtes et c'est comme une petite famille à 4 pattes qui a besoin de nous absolument tous les jours. Et là, j'ai eu cette chance effectivement assez extraordinaire cette année de pouvoir remplacer cette personne qui a envie de se mettre dans un parcours d'installation agricole et de pouvoir se tester. On a travaillé ensemble et maintenant, je peux lui passer les clés de la ferme pendant quelques jours sans aucun souci.
Donc vous avez pu prendre, je crois, quelques jours de vacances.
Oui, j'ai pris cette année, pour la première fois en 4 ans, 2 semaines de vacances d'affilée. Ah. J'ai pu couper de la ferme et j'en avais vraiment besoin cette année. J'ai pu partir 2 semaines et voyager un petit peu. Bon, pas voyager très loin, voyager à 3 heures de route, mais c'est déjà absolument gigantesque pour une éleveuse de pouvoir partir.
On est loin, Noémie Calais, de la salariée que vous étiez, cadre dynamique, qui avait ses congés payés, qui avait son salaire qui tombait tous les mois. Vous ne le regrettez pas, ça, de temps en temps?
Alors, c'est très ambivalent. Lorsqu'on est éleveur ou paysan, cette situation, ce rapport au salariat qu'on a pu connaître avant. Je ne regrette pas du tout le choix de vie qui m'a conduit à devenir entrepreneur, à devenir mon propre patron, à travailler avec la nature, à travailler avec le vivant. Ça, je ne le regrette jamais. Simplement, au plus dur de l'hiver, dans les phases les plus compliquées, je dois admettre que lorsque les amis venaient dans le Gers pour me voir et qu'eux étaient en vacances, se mettaient les pieds sous la table, restaient tranquillement au chaud dans le canapé, parce qu'ils avaient la chance d'avoir des congés payés, des vacances, du repos, alors que moi, j'arrivais même pas à me prendre du répit. Ces quelques jours qui nous permettent juste de sortir la tête hors de l'eau. Je les ai beaucoup enviés et j'ai pu commencer à ressentir pas mal d'amertume vis-à-vis des gens qui avaient la chance de bénéficier des congés payés.
Vous le dites avec humour, vous appelez ça le syndrome de Pocahontas.
Ça, c'est encore un peu différent. Ça, ça avait trait plutôt à des histoires d'amour, mais qui ont aussi pour base ce décalage entre les amis qui viennent de la ville, qui viennent nous voir à la campagne, qui
c'est
se mettent dans notre vie.
Pour
absolument. Pour eux, c'est une distraction. Ils viennent vivre notre vie, la partager avec toute l'intensité qui est ce quotidien agricole. Et pendant 2 semaines, ils vont se lever avec nous très tôt pour aller aux bêtes, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ils vont venir avec nous à la salle de découpe, découper de la carcasse toute la journée. Et on est extrêmement reconnaissant des coups de main qu'ils nous filent, parce que pour nous, c'est extrêmement précieux, en plus du contact humain qu'ils nous apportent et qui nous sort complètement de notre quotidien.
Mais ils viennent quelques jours, une semaine,
voilà,
et
ils
repartent. Et ils vous laissent, vous, à votre quotidien.
Tout à fait, tout à fait. Et ce qui peut être un peu difficile quand on est soi-même engagé dans une dynamique paysanne avec une éthique de travail et parfois une précarité de vie qui en est son corollaire, c'est qu'on se dit, bah mince, là, ils ont fini leurs vacances, ils repartent à Paris, et en fait, ils vont se remettre à consommer des produits de la grande distribution, sans se rendre compte que quand on achète un produit de la grande distribution, c'est un peu un paysan qu'on assassine derrière. Et ça, ça peut être très, très, très difficile à vivre. En plus de l'absence, évidemment, qui est laissée par le départ des êtres chers, des êtres aimés, des amis qui retrouvent la ville pour retrouver leur quotidien.
Et qui vous laissent, vous, les pieds dans la boue.
Exactement.
Avec vos cochons.
Absolument.
Visage, l'expression de l'être.
Noémie Calais, on va revenir sur votre parcours avant votre installation comme éleveuse de cochons noirs dans le Gers. Moi, j'aimerais bien qu'on comprenne un peu ce qui vous a conduit à faire ce choix quand même radical de vous installer comme éleveuse dans le Gers, alors que, bah, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez ici à Paris, à Sciences Po, vous êtes diplômée de Sciences Po, vous étiez même une fille plutôt brillante, hein, vous avez eu le bac avec plus de 20 sur 20. Et puis, vous avez eu différentes activités professionnelles. Alors, aidez-nous à revenir, on ne va pas regarder tout en détail, mais le parcours que vous avez eu jusqu'à un jour cette décision de changer radicalement de vie. Paris d'abord.
Oui, Paris, Paris. Absolument. La vie à Paris, à Sciences Po Paris, avec cette opportunité qui nous est donnée de partir en troisième année à l'étranger. Donc j'ai passé une année à Boston, qui était palpitante et très intéressante pour se confronter à une autre culture. Et lors de mon master en affaires publiques, je suis partie à Hong Kong, je suis revenue.
Qu'est-ce que vous faisiez à Hong Kong ?
À Hong Kong, j'avais été envoyée par le groupe SOS, cet opérateur d'entreprise sociale français, qui souhaitait se développer là-bas et développer une activité d'impact investing. Donc c'est du financement social et solidaire de start-up qui vise à traiter des problèmes environnementaux et sociaux, mais par le biais du secteur privé.
Ce qui veut dire que vous étiez déjà intéressée, questionnée par les questions environnementales,
absolument,
l'écologie.
Absolument, mais avec un prisme très urbain. Et pendant cette année de césure, au cours de mon master, j'ai voulu aller tester les 3 secteurs qui pouvaient permettre d'aborder des problématiques sociales ou environnementales. J'ai voulu faire un stage dans le secteur public, donc à la ville de Paris, à l'accueil des personnes sans-abri. Ensuite, dans le secteur privé, là c'était chez L'Oréal en développement durable. Et ensuite, j'ai voulu essayer cette espèce de troisième voie qui était la promesse de l'entrepreneuriat social. Et c'est via cette troisième voie que je suis partie à Hong Kong. Et les hasards de la vie et des relations humaines et amoureuses m'ont ensuite menée à Londres. Et à Londres, suite à un premier boulot qui était plutôt alimentaire, j'ai rejoint un tout petit cabinet de conseil en développement international, dont notre client principal était la Commission européenne.
Donc
nous
c'était
nous
quoi, pour faire du lobbying au sein de la Commission européenne ?
Alors, dans ce cadre-là, ce n'était pas du lobbying que je faisais. En revanche, j'avais étudié le lobbying à Sciences Po en dernière année d'études et j'avais trouvé ça absolument passionnant. Je me voyais déjà lobbyiste. J'avais adoré cet art de pouvoir comprendre et influencer les calendriers budgétaires, les lois, proposer des amendements, mettre la société civile derrière ces causes-là. J'avais vraiment trouvé ça palpitant. Mais une fois à Londres, le petit cabinet de conseil produisait des rapports d'expertise indépendants sur plusieurs réglementations européennes qui avaient trait au développement de certains pays d'Afrique, le Ghana, l'Éthiopie, le Kenya. Et notre travail visait aussi à mettre autour de la table plusieurs interlocuteurs européens et notamment des bailleurs qui donnent de l'argent aux pays en voie de développement pour essayer de répondre aux problématiques de développement de ces pays-là.
Alors, Tout ça, Dominique Allais, ça a l'air passionnant. Ça a l'air même avec des perspectives éthiques. L'engagement qui vous tient à cœur aujourd'hui, on se dit, mais elle aurait pu continuer à le vivre à Bruxelles, à Londres, à Paris. Pourquoi tout arrêter et partir s'installer dans le Gers?
Mais il y a eu deux choses. D'abord, au niveau du métier en tant que tel, travailler dans un bureau à écrire des rapports qui n'allaient pas être lus par beaucoup de personnes, ça a commencé à me questionner. Avant toute chose, je me suis vraiment questionnée sur l'impact de ce que je faisais. Est-ce que ces rapports d'experts indépendants, qui finalement ne sont acceptés que lorsque la commission est d'accord avec les conclusions après avoir apporté elle-même ces modifications, est-ce que c'est vraiment indépendant à la fin de tout ça? Et puis en fait, quel en est l'impact réel? Vraiment, ça a commencé à me questionner énormément. Et puis j'ai commencé à devenir un peu critique aussi de la véritable transparence et démocratie qu'on pouvait avoir dans ces prises de décision au niveau de la Commission européenne. Vraiment, j'ai commencé à douter.
Voilà. L'impact des lobbying sur place.
Exactement.
Auprès des députés.
Absolument. Il y a des choses qui me froissaient un petit peu. Et ensuite, surtout, j'ai commencé à avoir des soucis de santé. Je ne pouvais plus rester en ville sans avoir des problèmes respiratoires assez forts et surtout, après coup, des problèmes cognitifs. Donc, problèmes d'orientation, problèmes d'équilibre, de vertige et surtout perte de mémoire. Et lorsqu'on a 25 ans, qu'on a toujours eu un cerveau qui fonctionnait plutôt vite et bien et qu'on n'arrive plus à se souvenir du prénom de la personne qu'on a eu en face de nous ou qui vient de nous passer un appel téléphonique quelques minutes avant, c'est très 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 perturbant. Et tous ces maux de tête, ces problèmes cognitifs ont commencé à devenir de plus en plus forts, de plus en plus gros. Et la seule solution trouvée par les médecins à cette époque-là, c'était de dire il ne faut plus rester en ville. Il faut aller se mettre au vert. Votre cerveau a une inflammation neurogène.
Liée à son
environnement, liée à la pollution. Chimique
et
électromagnétique. Exactement. Et ça, j'ai refusé.
Vous êtes sensible
aux
ondes électromagnétiques.
Oui, je suis sensible aux ondes électromagnétiques. Et ça, j'ai refusé de l'admettre pendant assez longtemps. Je refusais parce que pour moi, toute l'image que j'en avais, c'était des reportages sur lesquels j'avais vu des vieux misanthropes se terrer dans des cavernes au fin fond de l'Ariège et en disant que les ondes étaient mauvaises pour la santé. Alors que moi, je faisais partie de cette nouvelle génération. Voilà, c'est ça. J'avais deux portables à côté de ma tête toutes les nuits, etc. Et je pensais que c'était complètement psychosomatique. Mais j'ai bien dû me rendre à l'évidence qu'effectivement, lorsque j'étais à l'écart de ces ondes-là, mon cerveau recommençait parfaitement bien à fonctionner et que, à l'aveugle, on en parle dans notre livre, hein, mais par exemple, lorsqu'on a fait Noël avec ma famille dans le sous-sol pour être sûr qu'aucune onde n'allait arriver, à l'époque où j'étais vraiment au pire de cette condition physique, eh bien, d'un coup, j'ai commencé, alors que j'étais assise, à avoir des vertiges, des troubles, à devenir toute rouge, à plus trouver mes mots. Et en fait, ma sœur avait allumé un babyphone derrière ma tête. Et c'est l'une des innombrables petites expériences à l'aveugle dont je pourrais vous faire part pour expliquer ce qui s'est passé. C'est fou.
Alors Noémie Calais, est-ce que vous avez essayé de chercher une zone blanche à travers la France? Ça a été le critère. Ça doit être difficile aujourd'hui de trouver des zones où il n'y a pas trop d'émissions de puissance d'émetteurs.
Absolument. Oui. Vous avez trouvé des zones blanches, c'est très compliqué. Mais lorsque je suis revenue de Londres, déjà, la moindre amélioration dans mon environnement de vie me faisait aller mieux. Donc je me suis dit, allez, je vais tenter des fermes, parce que les fermes, quand même, c'est un peu loin de tout. Au moins, je serai sûre d'être loin des antennes relais. Tant que je ne suis pas à proximité immédiate d'une antenne relais, je fonctionne plutôt pas mal. Je demanderai à éteindre le Wi-Fi la nuit, puisque c'est la nuit vraiment que le corps se répare et que le cerveau a le temps de se remettre de tout ça. Si l'espace de vie la nuit est protégé, normalement, on s'en sort plutôt bien en journée. On arrive à résister.
Mais donc ça, c'était la dimension de soins que vous vouliez apporter à votre corps.
Oui, absolument.
Mais de là à aller s'installer pour tenir une ferme dans le Gers, ça s'est fait comment?
Mais totalement par hasard, évidemment, comme la plupart des meilleures choses dans la vie. J'ai commencé à découvrir, aller dans des fermes pour me mettre à l'abri des ondes et pouvoir refonctionner. Et là, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler le jardin, à aider des gens dans leur potager, et puis aux soins des petits animaux, de la volaille, des poules pour commencer. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à aller dans des fermes où il y avait des cochons. Des cochons que j'avais rencontrés déjà dans la ferme des parents de mon petit ami de l'époque au Pays de Galles, lorsque je vivais encore en Angleterre. On avait adoré le contact avec ces animaux-là. Toutes nos vacances, on les passait là-bas. Et une fois arrivés dans leur petite ferme, la plupart du temps, c'était dans l'enclos des cochons qu'on était sûr de pouvoir nous retrouver.
Donc vous aimez bien, vous étiez attiré par cet animal.
Et oui, on aimait bien les cochons, j'aimais bien les cochons en tout cas. Et parce qu'il y a une sociabilité, un côté joueur, francs, drôles qu'on trouve chez cet animal, ils viennent très facilement au contact, ils créent une interaction très rapide et très forte avec l'humain, et ils papotent. Alors ça, c'est assez incroyable, je le vis au quotidien sur ma ferme. Il y a des animaux qui adorent parler, ils ont des tas de grognements, de sons différents.
Pour rentrer en contact avec vous.
Ah mais totalement, totalement. Ils savent très bien se faire comprendre, et ça me fait beaucoup penser en fait à la relation qu'on peut avoir avec un chien, ou avec un chat, mais plutôt avec un chien au niveau de l'intelligence émotionnelle. Et très vite, ces animaux apprennent à répondre à leur prénom, ils vous suivent, ils vous font confiance, ils interagissent, ils viennent se placer d'une certaine manière lorsqu'ils veulent avoir des caresses. C'est proprement fascinant, ce rapport qu'on peut avoir à cet animal-là, qui est un animal de ferme qui, historiquement, a souvent été relégué dans le noir, dans des petites porcheries au fond du jardin, dans un tout petit enclos.
Sans parler des porcheries industrielles, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler ensemble. J'aimerais qu'on parle du début de votre installation, parce que votre rêve était de devenir plutôt maraîchère.
Absolument.
De travailler dans les légumes au début.
Oui, tout à fait.
Et vous avez fait une formation pour ça.
Oui, tout à fait. Lorsque j'ai intégré la formation qu'on doit passer pour avoir ce qui s'appelle la capacité agricole, c'est-à-dire cette capacité en fait à avoir des subventions de l'État derrière pour montrer qu'on s'installe dans un certain cadre.
Ou de pouvoir emprunter dans les banques
aussi.
Oui, absolument. On vous demande d'être diplômé d'une
certaine manière. D'avoir une certaine expérience agricole. Oui, les banques
vous,
ne
vous
vont pas prêter
pas.
Rapidement.
Il ne suffit pas de dire, écoutez, j'ai fait Sciences Po, je voudrais m'installer.
Exactement,
dans
j'ai
une
fait
ferme.
Sciences Po,
ça
je veux faire pousser
ça.
Des légumes. Ça marche absolument
ça marche
pas,
ça.
On va avoir zéro crédibilité et on les comprend. Non, non, il faut de l'expérience, des stages, une expérience de terrain évidemment, et puis si possible, une formation agricole. Et cette formation agricole ne proposait pas dans le Gers de formation spécifique sur l'élevage, en tout cas l'élevage de cochons. C'est très minoritaire, hein, on est peu d'éleveurs et d'éleveuses de cochons en France. Et donc je me suis retrouvée en formation maraîchage. Et ça correspondait tout à fait à l'éthique que j'avais au départ, qui était de me dire, bah, dans la vie, la base, c'est quand même le légume, le végétal, et la viande, c'est censé être complètement superflu. Et il ne faut surtout pas en manger trop, et l'impact sur notre territoire est trop important. Donc du légume d'abord, et un peu de cochon à côté pour le plaisir. Et en fait, de fil en aiguille, au cours de mes stages, là où je me réalisais le plus, où je m'épanouissais le plus, c'était lorsqu'il y avait de l'animal qui entrait dans ma vie. Donc en maraîchage, c'était quand je me retrouvais à faire de la traction animale. Vous savez, quand vous mettez des outils derrière des ânes ou des chevaux pour faire avancer la charrue, la bineuse, etc. Et donc je me suis dit, voilà, en fait, autant écouter mon cœur. Mon cœur me pousse vers les animaux et vers les cochons. Et si j'essaye de me souvenir de ce que je voulais faire lorsque j'étais gosse, c'était d'avoir un zoo et un restaurant. Donc en fait, c'est d'avoir des animaux, du soin aux animaux, et de faire à manger derrière pour rendre les gens heureux. En fait, il faut impérativement que je me reconnecte à mes rêves d'enfant et que je prenne ces deux parties.
C'est important ce que vous dites là, Noémie Calais. Il faut être à l'écoute de ses rêves d'enfant. Il ne faut jamais oublier ce que l'on a rêvé, réalisé quand on était enfant.
Et oui, absolument.
On se coupe trop finalement de ses rêves d'enfant.
Je pense, oui, parce que ça, j'en parle parfois avec des amis de ma formation de Sciences Po Paris. Quand on rentre en première année à Sciences Po, on va pas se dire qu'on va finir en cabinet de conseil, et c'est quelque chose qui est totalement abstrait et qui en fait vient avec la raison, la rationalité au fil des années. Et en fait, si on regarde autour de nous et si je pose la question à mes camarades de promo, personne n'avait ça comme rêve d'enfant. Non, il y en a qui voulaient devenir chanteur, photographe animalier, prof, je sais pas, il y a 1000 métiers qui existent, donc pourquoi se restreindre d'un coup au fil de nos études et aller vers des chemins tout tracés? Ça me paraît nécessaire et indispensable de se reconnecter à nos rêves d'enfant.
Alors Noémie Calais, ça ne fait pas forcément rêver, je pense, beaucoup de personnes qui nous écoutent, l'idée de vivre avec des cochons, d'élever des cochons, de tuer des cochons, de les découper comme vous le faites, puisque c'est vous-même qui réalisez la découpe de vos cochons. Alors, on va découvrir avec vous votre vie quotidienne, parce que vous êtes installé, ça y est, depuis 2018 dans le Gers, vous élevez vos cochons. Vous en avez combien aujourd'hui ?
Alors, en janvier, je vous aurais répondu que j'en avais à peu près 70 à l'engraissement, plus 6 mères. Et là, j'ai considérablement réduit mon cheptel cette année pour aller vers plus d'équilibre et aussi pour des considérations économiques qu'on pourra évoquer plus tard. J'ai à peu près une quinzaine de cochons à l'engraissement et 8 mères. Donc, beaucoup de porcelets.
Vous avez diminué...
J'ai complètement diminué mon cheptel
cette
année.
Pour des raisons économiques.
Pour des raisons économiques et pour des raisons de temps de travail, de fatigue, d'usure. En fait, cette année, depuis le début de l'année, il y a eu une augmentation considérable du coût du grain. Et mes cochons mangent quand même pas mal de grains, même si j'essaye d'énormément diversifier leur alimentation pour les remettre au cœur du rôle du cochon dans l'agriculture traditionnelle, qui est d'être la poubelle en fait de notre agriculture, de manger les déchets, les sous-produits, le petit lait, les légumes invendus, toutes ces choses-là qui forment les sous-produits du reste des activités agricoles qui nous entourent. Mais il n'empêche que cette année, j'ai subi ça de plein fouet, l'augmentation des coûts donc, du grain, ainsi que l'augmentation des coûts du pétrole. Et manque de chance pour nous, je dis nous, les petits éleveurs des territoires ruraux, ce qui nous permet de travailler est éclaté sur le territoire. Lorsque je veux aller à l'abattoir, donc j'ai beau avoir élevé mon animal chez moi, l'avoir fait naître chez moi, je suis obligée de passer par un abattoir pour la mise à mort.
Vous ne tuez pas vous-même votre cochon.
Non, malheureusement, ce qui est prévu pour le moment dans la loi, c'est de pouvoir tuer deux cochons par an de sa propre main pour sa propre consommation.
Mais pas pour la commercialisation.
Exactement. J'ai des emprunts derrière moi pour avoir mis cette exploitation en place. Enfin, cette exploitation, je n'aime pas le mot. Cette ferme en place. Donc, je suis obligée d'avoir une traçabilité vérifiée.
Donc, vous êtes obligée de les emmener à l'abattoir.
Exactement.
Et donc... coût de
et
transport.
Là, on n'est pas à plat. Hein, ouais. On n'est pas dans les plaines.
Le Gers, c'est vallonné.
Belges.
C'est pas de la haute montagne, mais c'est vallonné.
Il y a du vallon. Et alors, quand on se prend du vallon plusieurs fois par mois pour aller emmener nos animaux, une bétaillère bien lourde jusqu'à l'abattoir, ça charge. Et la salle de découpe, de même, je ne l'ai pas sur place à la ferme. Elle est partagée avec d'autres éleveurs à un autre endroit du Gers pour pouvoir faire des économies d'échelle et travailler à plusieurs aussi, se soutenir, se rencontrer. Sinon, on est tous isolés sur nos fermes. Donc, c'est vraiment cette CUMA, donc coopération d'utilisation du matériel agricole, c'est à la fois un lieu qui est comme un ring de boxe dans lequel on rentre, on sait qu'on va être dans un corps à corps, un chair à chair avec nos carcasses, et en même temps, un cercle d'humanité très très fort, parce que c'est à cet endroit-là qu'on rencontre les autres éleveurs de notre territoire et qu'on parle de nos vies et de ce qui fait notre quotidien. Mais il n'empêche que lorsque le pétrole augmente, que l'abattoir le plus proche de chez vous est déjà à 2 heures de route aller-retour, qu'il ferme parfois pour des tas de raisons, et qu'on se retrouve à aller encore plus loin, parfois 4 heures aller-retour en pleine nuit, pour aller abattre des animaux, et qu'il faut ensuite, le reste de la semaine, faire des tas d'autres trajets pour aller découper, pour aller vendre, commercialiser, livrer, ça commence à faire beaucoup.
Donc cet équilibre-là
n'était pas tenable. De réduire.
Plus petite, finalement.
Exactement.
Mais pas dans la logique habituelle, qui est de grossir, pour pouvoir s'en sortir financièrement.
Absolument.
Vous faites l'option inverse.
Ah oui, moi j'ai trouvé que pour mon équilibre, à la fois économique et mental et émotionnel, parce qu'il y a la mort de l'animal derrière tout cela, il ne faut pas l'oublier, j'avais besoin de réduire. Parce qu'en fait, faire mourir ces animaux régulièrement, les emmener à la mort, ne pas pouvoir donner la mort soi-même, déjà, c'est très très violent. Je sais que je laisse mon animal dans d'autres mains, mais en fait, cet animal, il est né dans mes mains, sur un petit territoire qu'il connaît par cœur, où il est bien, où il est détendu. Et en fait, la veille de sa mort, je suis obligée de le mettre dans une remorque, de l'emmener à travers les coteaux sur des dodanes et de le laisser dans un abattoir où je connais les gens, je connais les employés, je m'entends très bien avec eux, c'est des gens empreints d'humanité. Simplement, je sais que le lendemain matin, ils vont devoir, à partir de 5h30 du matin, abattre des animaux à la chaîne. Alors, évidemment,
avec d'autres cochons, eux ont été élevés dans l'industrie de l'élevage intensif.
Absolument. J'essaye d'arriver le plus tôt.
Des cochons qui sont complètement stressés.
Totalement. J'essaye d'arriver le plus tôt possible à l'abattoir pour mettre mes cochons dans une petite loge avant que n'arrivent les camions à plusieurs étages issus d'élevage intensif. Simplement, parfois, j'arrive après ces camions-là. Et lorsque je décharge mes animaux, je dois les faire passer dans le hangar de l'abattoir, au milieu de loges qui sont déjà complètement pleines à craquer de ces cochons roses, qui sont striés, qui ont des coups sur la peau, qui ont les yeux injectés de sang, qui crient, en fait, qui crient, qui sont pas bien.
Qui n'ont jamais vécu comme vos cochons, câlinés, avec le droit de courir en extérieur.
Absolument. Et ça, c'est très dur, c'est très brutal, très violent. Et on aimerait, en tant que petits éleveurs, parce que là, je peux parler pour quasiment tous les autres éleveurs qui m'entourent, on aimerait pouvoir donner la mort de notre propre main. Simplement, pour le moment, c'est compliqué au niveau réglementaire.
Visage, Thierry Lyonnais.
Noémie Calais, nous poursuivons sur RCF cette émission autour de votre vie d'éleveuse de cochons noirs dans le Gers. Alors, aidez-nous à comprendre quelque chose qui nous semble paradoxal. Vous parlez de vos cochons avec beaucoup de lumière dans les yeux, beaucoup d'amour. Vous parlez même de ces cochons qui peuvent vous suivre comme des petits chiens. Vous en avez une dont vous nous parlez dans le livre qui s'appelle Merveille. C'était presque une amie, une compagnie. Mmh. Et puis, vous tuez ces animaux, voire même la finalité de l'élevage, c'est d'abattre ces animaux. Alors, aidez-nous à comprendre, ça nous semble, nous citadins, enfin, je parle pour les citadins qui nous écoutent, assez incompréhensible d'aimer ces animaux et de les tuer.
Absolument.
Expliquez-nous
c'est
ça.
Une question qui est très importante. Et elle est au cœur de ce qu'est l'élevage depuis des millénaires. Depuis des millénaires, l'élevage existe. Et je parle bien d'élevage de petite taille, d'élevage raisonné et non pas d'exploitation industrielle, où là, le rapport à l'animal, en tant qu'être sensible, n'existe pas. Mmh.
Vous connaissez chacun de vos cochons.
Oui, voilà, exactement.
Les
reproducteurs, c'est ça, les huîtres ont chacune un prénom, une personnalité que j'ai bien identifiée. Je sais très bien avec quels autres animaux elles s'entendent, avec lesquels elles vont être dans des rapports de domination. Je les connais absolument par cœur, et elles répondent à leur prénom et elles me suivent. Les cochons à l'engraissement, eux, ils naissent par portée, ils naissent par 7, 10 cochons, donc je les nomme le jour de la naissance parce que ça me fait rire et que ça implique les amis autour de moi, etc. Simplement, en grandissant, je ne retiens pas forcément leurs prénoms. Eux, c'est plutôt comme des groupes. Et en fait, ça a beaucoup étonné Clément, mon co-auteur, qui lui a ce point de vue urbain et extérieur à l'élevage comme vous.
Qu'il vous a posé, Clément Osé, mais comment tu peux faire pour aimer ces cochons et puis finalement les tuer.
Absolument. Et aussi, pourquoi tu as un rapport d'amour différent entre les cabanes de gauche, qui sont les cabanes avec les reproducteurs, les femelles qui ont tout un prénom, qui sont encore plus bichonnées, et les cabanes de droite, qui sont les cochons à l'engraissement, qui eux sont par petits groupes et que tu mets dans la bétaillère régulièrement pour les emmener à l'abattoir? C'est une excellente question, parce que les gens sur le marché viennent me poser la question et me disent « Mais est-ce que ça vous fait pas mal de les emmener à l'abattoir et de les emmener à la mort ?» Et je leur dis « Ben si, en fait, c'est dur. C'est dur, il faut pas se voiler la face. C'est très dur d'emmener ces cochons à la mort parce qu'ils me font confiance. Et lorsque je les emmène dans la bétaillère et que je referme la porte derrière eux, j'ai un sentiment de trahison. J'ai l'impression de les avoir trahis parce qu'ils m'ont suivi en toute confiance.
Ils me
connaissent par cœur. Je suis la main qui nourrit, je suis la main qui caresse. »
C'est terrible, ça.
À quel moment je serai la main qui abat? Et en fait, cette question, après 3 ans, quasiment 4 maintenant de travail avec ces animaux et de travail de la viande et de l'élevage, je commence à avoir du mal à vivre avec. Et j'ai décidé, cette année, également de réduire mon cheptel pour ne plus être dans une dynamique de mort aussi fréquente. Parce que je commence à avoir beaucoup de mal à faire naître ces petits uniquement dans le but et la finalité de les engraisser pour en faire de la viande au bout. Ça me paraît
c'est dans la logique économique de votre métier.
Exactement.
Vous simplement, les élevez pour en faire de la viande que vous vendez sur le marché.
Tout à fait. Simplement, cette logique économique, je ne veux plus qu'elle passe devant ma logique éthique, morale et émotionnelle. C'est-à-dire que maintenant, j'envisage la mort de l'animal en élevage et au sein de fermes équilibrées entre l'animal et le végétal, mais uniquement si l'animal a eu une autre fonction au cours de sa vie. Donc je suis sur une ferme collective où il y a du maraîchage, où il y a du lait, de la transformation fromagère, de la production de boissons végétales, et tous ces ateliers-là produisent des déchets. Moi, ce que je veux faire maintenant avec mes cochons, c'est les remettre dans leur dynamique paysanne, leur rôle de cochon, dans une dimension historique, c'est d'absorber les déchets des fermes et des territoires. Mais en fait, je peux faire ça, je veux faire ça, je veux que mon cochon serve à ça, parce qu'il a un sens. Simplement, je ne peux plus en avoir 70 ou 80, il faut que j'en ai juste une dizaine ou une quinzaine.
Oui, mais in fine, ils iront à l'abattoir et vous en ferez des jambons, des saucissons,
absolument.
Et vous le savez bien.
Simplement, ils auront servi à autre chose.
Ils auront servi aussi à autre chose, mais in fine,
et cette mort
ça sera
ne
mort.
Sera qu'occasionnelle. Pour moi, c'est très différent de tuer 10 animaux par an que d'en tuer 80 ou d'en tuer 2000, comme dans des élevages de plus grande taille. Parce que là, ces 15-là, je vais avoir le temps de créer un lien avec eux. C'est pas pareil que d'en avoir 60 et d'abattre de façon cyclique.
D'accord, mais est-ce que vous seriez prête à les abattre vous-même de votre main?
Ah, mais absolument, et c'est indispensable. Je le veux, c'est vraiment ça que je veux.
Alors, ça aussi,
j'ai tué des animaux.
Oui, vous l'avez déjà fait.
Exactement.
Et y compris Merveille, celle que vous aimiez beaucoup.
Tout à fait.
Et vous le dites dans le livre, ça a été très dur.
Merveille, ça a été un crève-cœur parce que c'était une truie. Mmh. Et j'avais un tel lien d'affection et d'amour pour cet animal que j'avais décidé de ne jamais l'abattre. Je souhaitais la garder comme truie on va dire, de compagnie ou dans une visée pédagogique pour faire des visites sur la ferme. Mmh. Ou alors, si je ne pouvais pas économiquement la garder, parce que ça mange quand même beaucoup un cochon, ça mange 750 kilos de grains par an pour un animal de cette taille, eh bien sinon j'allais la mettre dans un refuge ou une ferme pédagogique où je savais qu'elle serait bien traitée jusqu'à sa belle mort. Et j'ai dû la tuer. Car Merveille a eu une rupture du col du fémur, c'est-à-dire une blessure. Et malheureusement, lorsqu'un animal souffre et que sa blessure ne peut pas être soignée et réparée, il faut mettre fin à ses souffrances. Et ça a été très très dur, parce que ça c'est la
mort... Particulièrement pour elle, parce que vous l'aimiez beaucoup. Mais vous seriez prête à tuer régulièrement vos cochons?
Eh bien justement, je suis prête à tuer, mais beaucoup moins régulièrement que dans une dynamique d'élevage productiviste, disons-le.
Vous avez déclaré dans le livre « Tuer, c'est aussi se transformer soi-même ».
Absolument.
« J'ai tué une part d'innocence en moi, elle est devenue respect ».
Ah oui, absolument. Lorsqu'on a tué un animal de sa propre main, on ne peut plus jamais consommer de viande de la même manière. On ne peut plus gâcher un bout de viande. On ne peut plus gâcher un abat. Si on ne le mange pas soi-même, on va le cuisiner pour ses animaux de compagnie. On va en faire quelque chose d'autre. Mais en tout cas, donner la mort, sentir la vie qui s'en va d'un animal qu'on a aimé et avec lequel on a été en relation, c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant. Et pour moi, la consommation de viande derrière, c'est presque transcendant, presque chamanique.
Parce que vous mangez de la viande, vous n'êtes pas végétarienne, vous en mangez peu.
J'en mange absolument. Simplement, je ne mange plus que de la viande dont je connais le parcours, dont je connais l'éleveur ou l'éleveuse, ou en tout cas la façon dont cet animal a grandi. Je ne déconnecte pas l'animal de la viande. Pour moi, c'est très important de savoir quel était cet animal, comment il a été élevé, comment il a été traité. Malheureusement, comment il a été tué, je sais que la plupart du temps, c'est à l'abattoir. Et ça, c'est un véritable crève-cœur de ne pas pouvoir le faire soi-même. Mais en tout cas, je ne peux plus consommer de viande, en tout cas, ça c'est sûr, qui vienne d'élevage industriel. C'est impossible. Pour moi, c'est de la viande qui a été morte dans ces conditions d'élevage. L'animal, pour moi, est déjà mort, en fait, dans ces conditions carcérales, avant même d'être transformé en viande.
Mais Noémie Calais, vous dites que toute personne qui mange de la viande devrait avoir fait l'expérience, au moins une fois dans sa vie, de tuer l'animal qu'il va manger.
Absolument.
Pourquoi ça vous semble important, ça ?
C'est un peu une utopie, c'est un peu un rêve, mais vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Eh bien, parce qu'on ne peut pas manger de la viande en ignorance, il faut la manger en conscience. On sait tous au fond de nous-mêmes que derrière chaque morceau de viande, il y a un animal sensible qui a vécu et qui est mort. Et qui est mort comment ? Qui est mort parce que nous l'avons décidé. Donc à quel moment on a décidé de donner la mort à un animal ? C'est très très important comme question. C'est un acte fondamental, celui de tuer pour se nourrir derrière. Ça doit être fait dans le respect. Il y a vraiment quelque chose de transcendant dans le fait de manger de la chair.
Quand je vous écoute, je repense à ces textes que j'ai lus sur les Amérindiens qui chassaient le bison, qui tuaient des animaux pour se nourrir et qui chaque fois, quand ils étaient en train de dépecer l'animal, le remerciaient.
Absolument.
Avaient une prière pour remercier le Tout-Puissant et remercier l'animal de donner sa vie pour qu'eux puissent continuer à vivre.
Tout à fait. Il y a vraiment une notion d'équilibre dans ce que vous décrivez là, dans le rapport des Amérindiens aux bêtes qu'ils mangent. Une notion d'équilibre, c'est-à-dire qu'on va prélever dans la nature juste ce qu'il nous faut pour nous continuer à vivre et à faire du cuir et à faire aussi d'autres choses avec ces produits animaux, mais pas plus. On va pas prélever plus et on va pas se vautrer dans cette espèce de luxe d'avoir trop de viande ou trop de matière animale, parce que là, ça nous met nous-mêmes en déséquilibre. Non, tout est question d'équilibre et tout est question de respect. On mange tout de même la chair d'un autre être vivant qui a été vivant et qui a été sensible. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on ne peut pas faire à la légère.
Quand tout fout le camp, quand tout est décevant, quand rien n'est à sa place, pas même moi. Quand tout me lasse, quand tout est dégueulasse, quand rien ne vaut la peine, pas même moi. Je pense aux fleurs qui sont parfaites, qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. Je pense aux fleurs. Mais j'envie leur beauté muette. insomnie, que rien ne me guérit, pas même toi. Quand je cherche un sens à ma longue errance, que rien ne me soulage, rien ne me séduit. Je pense aux fleurs qui sont parfaites, qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être.
Noémie Calais, vous êtes typiquement ce qu'on appelle une néo-rurale. Vous venez à Paris avec les études que vous avez faites, votre vie à Hong Kong, Londres, et puis vous installez dans le Gers. Vous êtes arrivé en 2017, hein, je crois. Comment vous êtes vu, perçu par ces hommes, ces femmes, éleveurs, agriculteurs, qui sont éleveurs, agriculteurs de père en fils, de mère en fille? Comment ils vous perçoivent, sincèrement?
Il y a toujours eu beaucoup de curiosité dans le regard et souvent de l'étonnement. Les agriculteurs du cru que je connais, avec qui je suis en relation, sont généralement épatés que des jeunes de la ville viennent partager ce métier qui est dur, qui est éprouvant, qui est économiquement compliqué à suivre, pour ne pas dire peu viable ou pas viable du tout. Et ça les étonne. Et alors quand en plus ils apprennent qu'on vient pour faire de l'élevage, et bien là en fait il y a une espèce de lien de compréhension qui se crée entre eux et nous. Ils nous disent, mais
solidaire,
vous faites de l'élevage,
solidarité,
c'est
ou
super.
Plutôt, allez, ricanement, on va les voir, ils vont pas tenir.
Ben, y a forcément un peu de ricanement. Il y a forcément un peu de ricanement quand tu vois qu'on a mal entretenu leur prairie.
Oui, pour élever des cochons.
Absolument. Mais ça les a toujours beaucoup étonnés. Et en revanche, s'il y a pu y avoir quelques ricanements au départ, généralement, quand ils me voient à l'œuvre en interaction avec mes cochons, ou quand ils me voient à la découpe, quand ils me voient présenter le produit fini, être capable de parler des différentes pièces de viande à mes clients, et j'en parle bien puisque c'est moi qui ai découpé chacune de ces pièces, ben là, ça force le respect et ça crée une relation qui est, je ne vais pas dire complètement sur un pied d'égalité, parce que c'est des enfants du pays. Ils ont cette connaissance du terrain, cette connaissance de la terre, de la faune, de la flore locale, que moi, j'aurais peut-être jamais. Et j'ai besoin d'eux pour comprendre ça, de la même façon qu'eux ont besoin qu'il y ait de la relève dans nos campagnes.
Ça, ils le perçoivent vraiment, c'est-à-dire qu'ils acceptent de vous aider, de vous conseiller, parce qu'ils sont contents qu'il y ait des jeunes qui viennent, alors que beaucoup s'en
complètement.
Vont.
Les agriculteurs qui entourent notre ferme collective, bon, je ne peux pas parler pour tous les autres agriculteurs du Gers, j'en sais rien, moi je connais que ceux qui m'entourent et qui sont proches de nous. Mais en tout cas, eux sont dans une dynamique d'aide et d'entraide et de transmission très forte, parce qu'on a tout le temps des problèmes de matériel, d'empreintes tracteurs, de plein de petits soucis comme ça à résoudre, ou parfois on n'a plus de paille, alors vite, pour nos animaux, il nous faut de la paille, il faut aller la chercher à droite, à gauche, chez les voisins. Et eux sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous aider et ils trouvent ça honorable, valeureux et vaillant, comme on dit dans notre territoire, que des jeunes s'installent en élevage, tout particulièrement en élevage.
J'imagine, Noémie Calais, comme beaucoup de monde, vous avez entendu en avril 2022 ces élèves d'AgroParisTech qui ont appelé à bifurquer pour l'environnement et à quitter les jobs destructeurs, comme ils ont dit. Vous vous reconnaissez dans ce message ?
Absolument. Ah oui, absolument. Je pense qu'il est absolument nécessaire que la jeune génération, qui souffre beaucoup en plus en ce moment d'éco-anxiété ou de souffrance et d'impuissance vis-à-vis de ce qui est en train de se passer au niveau climatique, au niveau social, il y a quand même beaucoup de choses qui bouillonnent en ce moment. On a besoin de pouvoir agir dessus et rester dans les chemins tout tracés des grandes entreprises, des multinationales, ça peut renforcer ce sentiment d'impuissance, parce qu'on peut continuer, en fait, là, en étant là-dedans, à creuser le trou en bon fossoyeur de notre propre tombe. Donc le moment est venu d'être un peu dans une certaine, je pense, radicalité ou radicalisation quant à nos choix. On ne peut pas continuer à vouloir un autre monde en restant dedans et en continuant à appliquer ces codes.
Quelle différence faites-vous avec tous ces néo-ruraux des années 68-70 qui sont partis s'installer en Ardèche, dans le Larzac, et qui avaient la même critique vis-à-vis de la société de consommation et qui ont essayé de créer des communautés, on appelait ça des communautés à l'époque, néo-rurales, et très peu ont tenu.
Très peu ont tenu, absolument. De la même manière qu'actuellement, parmi tous les néo-ruraux qui s'installent, comme moi, combien arrivent en fait à faire survivre leur ferme au-delà de quelques années ? Si je regarde dans ma promotion de BPREA, ce brevet agricole que j'ai passé il y a quelques années pour pouvoir m'installer, il y en a déjà plein qui ont arrêté. Et les autres sont en souffrance, parce qu'en fait, on se retrouve, on essaye de rentrer dans le jeu d'une agriculture avec tout un tas de normes, de cadres qui ont été pensés par l'agro-industrie et pour l'agro-industrie. Et essayer de défendre un autre modèle, d'élever des animaux en plein air notamment, dans ce cadre-là, c'est extrêmement difficile. Et donc je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans la désertion qui est promue par ces jeunes diplômés d'AgroParisTech. Eux disent, ben voilà, après nos études, on ne va pas aller travailler pour les multinationales parce que elles détruisent l'environnement en faisant de la com, en disant qu'elles font absolument l'inverse et qu'elles le protègent.
Sous couvert de développement durable.
Absolument, ce sont les reines du greenwashing. Et ben, on ne va pas aller travailler pour eux. Et c'est indispensable d'avoir ce discours-là. Et de la même manière, moi voyant ce qui est en train de se passer avec tous les éleveurs qui m'entourent, toutes les bonnes volontés, toute l'énergie de ces jeunes qui s'installent et qui en fait souffrent de ce métier parce qu'il est dur, qu'il ne rémunère pas ou alors très mal. Et que derrière, on n'a même plus le droit de garder nos animaux en plein air. C'est quand même ultra violent. C'est une violence administrative. Et ben en fait, le seul moyen, c'est aussi de déserter, je pense, ces normes-là.
Qu'est-ce que ça veut dire, déserter ?
Et pour moi, c'est d'arrêter de respecter ces normes lorsqu'elles sont illégitimes. C'est de la désobéissance civile.
Ouais, mais
c'est ça qu'on a essayé de faire.
L'illégalité,
absolument,
et on
mais
l'a
il
vu
le faut.
Justement avec la peur de la grippe aviaire très récemment. Il y a tout un chapitre
tout
très intéressant où on voit la désespérance des éleveurs de poules, mm-hmm. notamment de poules en plein air, mm-hmm. avec toutes les interdictions qui sont tombées là très récemment à cause de l'épidémie de la grippe aviaire.
Tout à fait.
Et ça pousse des agriculteurs et des éleveurs au suicide.
Au suicide.
Deux suicides par jour en France.
Et oui.
D'éleveurs.
Et oui.
On le dit pas assez.
D'agriculteurs, absolument. La catégorie socio-professionnelle la plus à risque de suicide dans notre pays, c'est celle des agriculteurs. Pour de multiples facteurs, il y a l'isolement, la précarité économique et ces normes qui s'entassent. On se met aux normes, en fait. On essaye de bien faire, généralement, lorsqu'on est agriculteur. On va investir. Et on va essayer de respecter tout ça simplement en investissant. Ça veut dire qu'on s'engage sur à nouveau de nombreuses années où peut-être d'autres normes vont arriver avant même la fin du remboursement des prêts. En fait, ce qu'on aura fait sera déjà caduque. Ça, c'est très, très difficile à supporter. Ça veut dire également que quand on s'engage dans le respect de ces normes, on a pas mal de contrôle. On est tout le temps soumis au regard de l'administration. On devient en fait un peu un administré qui produit de la nourriture, certes, qui a le statut d'indépendant sur le papier, mais qui en fait est totalement regardé, contrôlé, administré. Dans le cas de la grippe aviaire, ce qui a été très brutal pour la plupart des éleveurs de volailles du Gers, c'est que la claustration des animaux est devenue obligatoire en novembre l'année dernière. Donc qu'on soit en bio, pas en bio, label rouge, critères de qualité, on n'a plus le droit de garder nos animaux dehors.
Il en a plein fallu air. C'est le but de cet élevage, là, c'est d'avoir les animaux en liberté, en plein air, pour qu'ils vivent, qu'ils soient heureux, qu'ils soient en bonne santé.
Absolument.
Et là, on vous a obligé à les enfermer.
Tout à fait. Et ça a été un facteur d'angoisse et de difficulté pour les éleveurs qui nous entouraient, déjà parce que la plupart de ceux qui travaillent avec des poulaillers mobiles ou des toutes petites structures qui permettent d'assurer le maximum de confort aux animaux. Et c'est d'ailleurs des modèles qui sont complètement plébiscités par nos consommateurs, par nos clients. Ils veulent évidemment des œufs plein air, des volailles plein air. Et c'est ça qui fait la qualité de nos produits. On ne va pas se mentir. Si on les élevait à l'intérieur d'un bâtiment, la qualité ne serait absolument pas
au rendez-vous
de cette matière.
Alors éclairez-nous, pourquoi il y a d'un côté des réglementations de plus en plus strictes, et si je vous entends bien, qui sont finalement édictées pour l'intérêt des grosses entreprises, mmh. et d'un autre côté, il y a les consommateurs qui veulent de plus en plus de nourriture saine, d'animaux sains.
Absolument.
Pourquoi on a cela ? Est-ce qu'il y a une intention malveillante et manichéenne de détruire tous les petits agriculteurs et les petits éleveurs ?
Eh bien, malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais j'ai l'impression, la sensation que oui. Parce que l'année dernière, en fait, il faut déjà regarder sur une approche historique un peu plus globale. La grippe aviaire, c'est pas nouveau. Ça fait des années que ça existe, sauf que là, c'est en train de devenir de plus en plus catastrophique d'année en année. Et si on regarde ce qui s'est passé là où elle a sévi dans d'autres endroits du monde, par exemple en Thaïlande il y a quelques années, Les mesures de biosécurité, de claustration obligatoire et les abattages massifs d'élevage en plein air ont conduit, en fait, en quelques années, à une reconcentration des fermes et de la production agricole dans les mains de quelques entreprises très puissantes.
Agroalimentaires.
Oui, absolument, absolument. Et les petits élevages, les structures vivrières qui permettaient à des tas de foyers de produire leur propre nourriture, en fait, vraiment le gage de leur autonomie alimentaire.
Donc on a
tout ça s'est effondré.
Tous les petits éleveurs.
On détruit un maillage territorial, on détruit les petits éleveurs, on détruit leur autonomie alimentaire, qui pour moi est aussi la base d'une autonomie intellectuelle et morale derrière. Mais on est en train d'assister à exactement la même chose sur le territoire français. Alors sous couvert de politique sanitaire, de dire « oh là là, on va faire un risque zéro, on va confiner tous les animaux, on va faire du tout stérile, mettre du désinfectant partout, dans tous les sas », mais en fait ça ne marche absolument pas. Cette année, la claustration a été obligatoire dans tous les élevages de France pour la première fois. Et la grippe aviaire n'a jamais été aussi meurtrière. Il y a eu 16 millions d'animaux qui ont été abattus. Et les services de l'État ont été tellement dépassés dans leur mission de tuer les animaux et de les enterrer que souvent ces charges-là ont été laissées aux mains des éleveurs qui ont dû eux-mêmes couper les ventilations de leurs bâtiments dans les grosses structures, qui ont dû aller faire des trous dans leurs champs pour aller les enterrer. C'est totalement fou. Il y a eu des tas d'articles dans Mediapart et Reporter, notamment sur ces situations-là. Et ça a été extrêmement violent et brutal. Donc on voit que cette politique-là ne marche pas, qu'elle est destructrice à la fois pour les éleveurs, pour les animaux, pour vraiment pour tout notre secteur. Simplement, le doigt est pointé vers les élevages en plein air qui seraient apparemment, à cause de la faune sauvage, les premiers à transmettre la maladie. Sauf que c'est faux.
Visage RCF.
Noémie Calais, qu'est-ce qui vous fait tenir en fait? Parce que en lisant ce livre, Plutôt nourrir, on voit bien déjà dans le titre, Plutôt nourrir, on pourrait vite changer en Plutôt mourir. C'est dur ce que vous vivez, très concrètement. À moins d'être naïf, le travail que vous menez est exigeant, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Hein, je n'ose pas vous demander combien vous gagnez par mois.
Comme la plupart des éleveurs, on est plutôt dans ce qui s'apparente au RSA. Soit on dépend du RSA directement, soit on est à peu près la même chose qu'on se tire pour soi-même.
C'est-à-dire
dans les 400-500 euros.
Par mois.
Voilà, par mois.
Et vous travaillez
pour un travail,
combien d'heures?
Ça dépend des semaines. Les semaines de découpe, ça peut être des semaines hyper exigeantes où je vais monter jusqu'à 70 heures par semaine. Les semaines où il n'y a pas de découpe, il faut quand même enchaîner sur les marchés, les livraisons et autres. Donc là, c'est très variable. On va aller de 40 à 60.
Donc, qu'est-ce qui vous fait tenir et continuer? Vous, diplômé de Sciences Po, qui pourriez travailler dans une grande entreprise, avoir un salaire, aller plutôt autour des 10 fois plus ou 15 fois plus.
Il y a beaucoup de, malgré toute la noirceur que je viens de décrire, il y a énormément de beauté humaine, de beauté naturelle dans ce métier, dans la paysannerie. Comment réussir à mettre tout cela en quelques phrases? C'est tellement riche et tellement dense. Il y a la qualité des relations humaines, avant tout. Il y a une espèce de franchise dans le monde paysan entre personnes qui, en fait, qui travaillent, qui s'échinent de la même manière, qui ont le même socle éthique, des socles de valeurs.
Il faut dire, excusez-moi, vous êtes dans un collectif fermier.
Oui,
hein.
Absolument.
Vous avez votre élevage et autour de vous, vous avez d'autres amis qui ont leur ferme, qui font
du lait, du fromage, des légumes, des boissons végétales.
Heureusement qu'il y a ce collectif,
midi,
vous n'êtes pas toute
absolument.
Seule.
Absolument. Le midi, on se retrouve à la salle de découpe, même si c'est un environnement qui peut être compliqué et difficile. On se retrouve avec d'autres éleveurs. Et là, les rapports humains qu'on a entre nous, parce qu'on partage le même socle de valeurs, les mêmes visions du monde, les mêmes révoltes et les mêmes grâces aussi, les mêmes émerveillements face à la beauté de la nature, face à la beauté de nos animaux. C'est très riche, très très riche. Et c'est une relation humaine qui n'est jamais superficielle. Vraiment. Y a
parce que
chose
vous en bavez tous, en fait. Vous êtes dans le même combat, quelque part.
Absolument.
Tous.
Absolument. Et au-delà de cette richesse des rapports humains, il y a ce qu'on produit, même si j'aime pas trop le terme produire, vous l'avez compris. On met quand même au jour des produits végétaux, animaux, qui sont gorgés d'histoire, qui sont gorgés de sens, de goût, de saveur. On a cette chance d'avoir sur notre table chaque jour des mets qui sont délicieux et nourris de sens parce qu'ils sont nourris aussi de notre sueur. C'est comme s'ils étaient assaisonnés en fait avec le sel de notre
front. Quand vous mangez, vous avez un tout autre rapport à ce que vous avez dans l'assiette que la plupart d'entre nous.
Absolument. Quand on regarde un produit, on ne voit pas simplement un bout de fromage et un bout de saucisson. On est capable de dire « Ah bah ce fromage-là a été fait par, on va dire, par Éléonore et Hugues la semaine dernière, ça a 3 semaines d'affinage, c'est super. Et ce saucisson a été fait à tel moment, on est capable parfois de dire le prénom de l'animal. » C'est quand même complètement fou comme relation à l'assiette. Et en fait, quelle chance, parce qu'on mange quand même 3 fois par jour. Donc si 3 fois par jour, on peut s'émerveiller de la qualité de ce qu'on mange, de la qualité de ce qu'on est en train d'ingérer, qui est à nouveau, c'est presque transcendant, en fait, comme relation à l'alimentation. On mange beaucoup plus qu'un carré de fromage ou qu'un morceau de viande. Beaucoup plus. Et dernier aspect dans ce qui nous fait tenir dans ce métier-là, c'est la beauté de la nature, tout simplement. On peut s'émerveiller chaque jour du lever de lune, de cette lune qui est gigantesque. Lorsqu'on travaille un peu tard le soir, en fait, ça va être ça, notre récompense. Il y a une beauté dans le ciel, une beauté dans les fleurs. Lorsque le printemps arrive, c'est un éternel recommencement. Et chaque année, on s'émerveille de la même façon qu'on s'est émerveillé l'année d'avant. Il va y avoir le jaune des forsythias, les pruniers qui vont être blancs. Il va y avoir les poiriers. Lorsque les poiriers arrivent en fleurs, c'est duveteux, c'est magnifique. Et chaque année, on s'émerveille de tout ça. L'éternel recommencement de la nature et des saisons nous émerveille à chaque fois.
Et ça, ça remplace le bonheur que vous aviez quand vous étiez ici à Paris, à aller à un spectacle, à prendre un avion pour aller faire un voyage et découvrir une autre partie du monde ?
Oui, absolument.
Parce que ça, vous ne pouvez plus le faire.
Absolument,
aujourd'hui.
Je ne le fais plus et prendre l'avion, je pense que ça me serait très difficile, peut-être de façon très occasionnelle, à quelques périodes de ma vie dans le futur, peut-être. Mais en tout cas, je pense que je culpabiliserais trop à avoir désormais des loisirs qui consomment beaucoup de pétrole, beaucoup de ressources naturelles. Je me sens beaucoup mieux à me contenter de beaucoup moins, mais de choses qui sont gorgées de sens.
Oui, mais alors là, vous êtes tombé, je dirais, pour certains, dans un autre extrême. Parce qu'avec le travail que vous avez,
et on le sait, aller très loin.
Vous ne pouvez pas aller loin parce que vous ne pouvez pas vous éloigner de vos bêtes.
Clairement, vous êtes
comme la plupart des éleveurs, coincés. Et il faut trouver quelqu'un qui va vous remplacer pour s'occuper de vos bêtes.
C'est pour ça
si
que
vous partez,
vous ne partez pas
souvent. Hein.
Non, je ne pars pas souvent. Cette année, j'ai eu cette chance.
C'était la première fois en 4 ans, vous nous l'avez dit.
Exactement. Donc je pense vraiment que le futur de l'agriculture sera collectif.
Vous ne vous sentez pas prisonnière quelque part ?
Oh, cette année, j'ai vraiment eu besoin de partir. Parce qu'après cette crise de l'injustice qu'on est nombreux à avoir vécue avec la grippe aviaire, avec l'interdiction de laisser nos animaux dehors, avec les mises en demeure sur certains éleveurs qui sont nos modèles, nos plus proches amis, aussi
l'hiver dernier, vous étiez à la limite de la dépression.
Ah, mais totalement. C'était très, très compliqué. Donc, vraiment, il a fallu pouvoir partir cette année. Donc, heureusement qu'il y a plein de bonne volonté aussi des jeunes qui viennent à l'agriculture, à la campagne, et qui ont, eux, envie de se tester dans ces métiers-là pour s'installer. En fait, si on veut, demain, pouvoir nourrir notre petit territoire français avec des produits bio, avec des produits locaux, il ne faut pas qu'on soit 400 000 agriculteurs comme actuellement, il faudrait qu'on soit 1 million. Problème ? Sur 4 agriculteurs qui partent à la retraite, il n'y en a qu'un seul le remplacer. Donc il y a une urgence à amener plus de gens à la campagne, plus de gens à la terre. Et ça me donne espoir parce que l'agriculture de demain, elle sera belle, vivante et vivable pour tout le monde si on arrive à être en collectif. Effectivement, un éleveur qui ne peut jamais partir de chez lui, mais si on combine ça à la difficulté du métier, à la précarité économique, on ne va pas s'en sortir très longtemps.
Le but, c'est d'être
à plusieurs.
C'est pour ça que vous dites à la fin de votre livre, rejoignez-nous.
Mais bien sûr.
Donc, vous appelez vraiment à des jeunes qui nous écoutent à venir vous rejoindre. Mais pourtant, quand vous dites un salaire de 400-500 euros par mois, vous voyez que ça va attirer, ça, des jeunes ?
Eh bien, je pense qu'on a beaucoup à gagner du lien à la nature, de la reconnexion à la nature et de la qualité des liens humains qu'on est capable de mettre en place à la campagne. Et la campagne, c'est un espace des possibles, un espace de liberté artistique, de liberté culturelle, absolument inouïe et extraordinaire. On fait de ces fêtes dans le Gers, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, les banquets en plein air, les concerts, toutes ces joies en fait qui créent des moments complètement suspendus dont on se souviendra toute notre vie. Il y a des beautés à créer. Simplement, il ne faut peut-être pas s'installer trop dans le système, comme j'ai fait moi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à passer mon diplôme agricole, donc moi qui voulais juste quelques cochons au début pour agrémenter quelques légumes, eh bien je suis passée sur un modèle où j'ai mis sur le papier de plus en plus d'animaux pour pouvoir bien rembourser mes emprunts, bénéficier des subventions de l'État. Et en fait, ces subventions, elles nous enchaînent à des critères de production. et donc, un là, engagement sur du long terme.
Donc là, vous êtes en train de dire qu'il faut s'installer sans emprunt.
Ah ben ça, c'est trop compliqué.
C'est pas
je
possible.
Dis pas qu'il faut s'installer sans emprunt,
c'est
surtout
pas.
Ah non, 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 on a besoin des emprunts, on a besoin des emprunts bancaires, on a besoin de l'épargne solidaire.
Donc vous êtes toujours prisonnier quelque part.
Un petit peu, simplement, c'est différent d'être prisonnier d'emprunts qu'on peut caler en fonction de ce qu'on souhaite mettre en place et des subventions de l'État pour lesquelles on doit remplir tellement de critères qu'on est obligé de s'engager dans une logique de production. Si on essaye de faire un tout petit projet, très mesuré, avec peu d'animaux, etc., on ne rentre pas du tout dans les cadres de l'État. On ne va pas pouvoir bénéficier de ces subventions-là. Donc généralement, pour pouvoir en bénéficier, on va faire grossir notre projet jusqu'à ce qu'on puisse rentrer dans les clous, et manque de chance, après, on est engagé dans une dynamique de production et de productivisme, en fait. Et je pense que ça peut être assez dangereux ou assez glissant, parce que quand ça implique du rapport à l'animal, du rapport à la mort notamment, on peut facilement perdre son âme. Donc moi, mon objectif maintenant, cette année, depuis la fin de l'écriture du livre, c'est de réduire ce cheptel pour retrouver un équilibre, vivre bien avec la mort, abattre chez moi, abattre à la ferme. Même si c'est illégal pour le moment, il y a plein de groupes d'éleveurs qui travaillent sur ce sujet-là actuellement en France. Il y a un cadre réglementaire qui permet de le faire de façon expérimentale depuis 2019. Simplement, ça met du temps à se mettre en place. Et en novembre, il y a une grande rencontre nationale qui est prévue pour faire le point sur ce qui existe à ce niveau-là, au niveau national.
En fait, en vous écoutant, je repense à Stéphane Hessel qui disait « résister ». Résister, c'est une forme de résistance aujourd'hui que vous proposez.
Ah ben oui, tout à fait. Tout à fait, c'est une résistance à de multiples choses. C'est une résistance à l'isolement que beaucoup de gens peuvent ressentir en ville, peuvent ressentir dans leur travail, si le travail manque de sens. C'est une résistance à la numérisation galopante du monde, en fait, de tout quitter et d'aller se reconnecter à la nature, au vivant. Ça implique de se reconnecter aussi à la mort, évidemment. Quand on travaille la vie,
en fait, la vie et la mort.
On travaille la mort, évidemment. Et ça, ça fait mal. Ça fait mal. Simplement, ça nous oblige à nous remettre en face de notre condition d'humain, une condition finie, et ça nous plonge en philosophie. Et ça fait de nous, forcément, un acteur qui a plus de poids. En fait, quand on a du poids sur ce qu'on produit à manger, on fait aussi partie de... On fait de la politique, on fait partie de la société, et on peut faire société avec les clients, avec notre territoire. Ça,
est-ce qu'il
n'y
a pas finalement beaucoup de candeur, presque de naïveté, de jeunes qui veulent quitter la société telle qu'ils la connaissent pour aller s'installer à la campagne?
Si, absolument. Il y a beaucoup de naïveté là-dedans. Et quand on lit les premières pages de mon livre, on retombe sur un extrait de mon carnet.
Où vous étiez naïve.
Totalement naïve. Et là, j'ai perdu cette naïveté en 4 ans en me retrouvant confrontée aux problématiques de production, aux problématiques normatives qui vraiment sont en train d'écraser cette paysannerie qu'on appelle tous de nos vœux, vraiment, pour nous nourrir sainement, correctement, durablement. Donc il y a de multiples défis à relever, et justement, si ce bouquin peut être l'occasion pour moi de parler aux jeunes qui ont envie de quitter la ville et de s'installer, eh ben, faites-le, mais...
Sans illusion.
Mais voilà,
sans
illusion, sans naïveté, et venez vous former pendant plusieurs saisons à la campagne pour qu'on vous passe aussi un petit peu notre expérience du terrain.
Merci beaucoup Noémie Calais, j'étais ravie de vous rencontrer. Je regrette de vous avoir rencontré à Paris et non pas dans votre ferme dans le Gers, mais ça faisait quand même un petit peu loin pour venir vous voir. Mais je viendrai voir vos cochons noirs, vous m'en présenterez quelques-uns avec grand plaisir. Merci pour ce livre « Plutôt nourrir, l'appel d'une éleveuse » que vous avez écrit, co-écrit hein, avec Clément Osé aux éditions Tana. Un livre très intéressant, non seulement sur votre vie personnelle, mais une réflexion sur le monde de l'élevage et de la campagne aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.